Europe 1. Écoutez le monde changer.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pousse d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour, amis bons vivants. Installez-vous, hein. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour le meilleur de la fourchette. Alors, quelle différence entre la saucisse de Montbéliard et de Morteau ? Comment s'organiser pour déjeuner maison et équilibré au travail ? Nous allons répondre à ces questions, entre autres. Et sur les coups de midi, nous recevrons le chef Christian Constant. Il viendra accompagné de belles pommes de terre farcies. C'est le moment d'accueillir ma bande. Bonne vivante, elle est toujours au jus des bonnes tables et au parfum de ce qui nous fait du bien. C'est Charlotte Langrand du journal du dimanche.
Bonjour, bonjour Charlotte. Bonjour Laurent, bonjour Olivier.
Bienvenue.
Bonjour.
Bon vivant, c'est l'ami de la crème et du beurre, mais aussi du vin qui apporte sa pointe d'acidité pour équilibrer tout ça. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Laurent, bonjour Charlotte, bonjour tout le monde et toute ma bande est avec moi, oui.
Et joyeux anniversaire Olivier Pouls. C'est aujourd'hui votre anniversaire.
Mais j'espère que vous avez préparé un gâteau.
Et vous allez voir, un beau gâteau de pommes de terre farcies, vous allez vous régaler avec Christian Constant.
Avec des bougies dessus.
Ah bah évidemment. Jean-Luc Petit-Renaud nous fera voyager et Marion Sauveur sera là évidemment avec son journal de la cuisine. Bah voilà, vous savez tout. En route, joyeuse troupe. Alors, avant d'aller sur un marché niçois, arrêtons-nous sur le goût qui a marqué notre semaine. À la maison, en voiture, hein, posez-vous la question. Quel goût a marqué votre semaine ? Honneur aux femmes, c'est demain la journée internationale des droits de la femme. On en reparlera tout à l'heure, mais commencez, ouvrez le bal, Charlotte Langrand.
Alors moi, c'est le goût du foin en plein Paris, dans le petit restaurant L'Innocence. Petit par la taille, mais grand par ce qu'il y a dans les assiettes. Tenu par Anne Legrand et Clio Modafari, elles ont un petit goût comme ça de foin qu'elles envoient régulièrement dans la salle. La cuisine est ouverte, donc en plein dans la salle, pour fumer leur canard de chaland parfaitement cuit, accompagné d'une petite fondue de poireaux et une charmoula du Maroc.
Bah, la charmoula, c'est une sauce avec de l'ail et puis de l'huile d'olive et des épices. C'est délicieux.
Le mariage est délicieux.
Oh, joli ça. Ça s'appelle ?
Ça s'appelle L'Innocence.
Et c'est à
c'est
Paris,
dans le 9e.
Dans le 9e arrondissement. C'est à la carte, c'est au menu ?
C'est au menu. Un menu le soir en 6 services et au déjeuner en 3 ou 4 services.
D'accord. Peut-être qu'elle viendra à la carte un jour. Moi, j'aime bien pouvoir choisir aussi de temps en temps ce qu'on mange. Cher Olivier Pouls, votre goût de la semaine.
Vous parlez de canard de chaland. Ben moi aussi, c'est du canard, figurez-vous, mais préparé très différemment. C'est un canard laqué, servi dans les règles de l'art à la pékinoise en 2 services, donc, que j'ai eu la chance de manger dans un des meilleurs restaurants chinois de Paris, qui s'appelle le Lily, dans l'hôtel Peninsula.
Ah oui, grande chance, très grande table.
Il faut avoir une fois dans sa vie, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher, mais il faut avoir une fois dans sa vie manger ce canard laqué, qui est un plat extraordinaire. C'est très long à préparer, puis il y a tout un protocole qui va avec.
Ça vaut le coup de mettre de l'argent de côté pour se faire ce plaisir-là.
Oui, parce qu'on peut le manger à 3. Ça coûte, je pense, autour de 130-140 € le canard laqué, mais on peut le partager, évidemment. On ne mange pas un canard tout seul.
Bien sûr.
Et puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est le protocole qui va avec. La découpe de la peau, tout d'abord, qu'on va manger dans les petites crêpes avec cette sauce caramélisée. Et puis après, un deuxième service où on va vous servir la chair qui a été sautée avec du riz. C'est une pure merveille.
Vive le canard. Eh bien, mon goût de la semaine, il est arrivé un petit peu en avance. C'est la rhubarbe, figurez-vous. Comme les asperges, elles sont déjà là. Moi, j'ai goûté les premières rhubarbes de Mathieu Verme, qui est un producteur de rhubarbe. Il en cultive une 60aine de variétés en Picardie. Des premières rhubarbes, si vous avez la chance d'en avoir dans votre potager, amis auditeurs, vous ne les épluchez pas, les premières, parce qu'elles sont tellement tendres et toutes fines qu'il n'y a pas besoin d'enlever le fil. Voilà, eh bien, en route maintenant pour les étals du cours Saleya à Nice. L'un des plaisirs du marché, hein, vous êtes d'accord, c'est de rencontrer les producteurs. Alors Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans la région, vous a demandé si c'était important pour vous d'être fidèle à vos producteurs locaux. Vos réponses au micro d'Europe 1.
C'est important d'échanger avec les producteurs. D'abord parce qu'on comprend mieux leur vie aussi, qui n'est pas toujours une vie très facile. On apprend à connaître les produits. Je crois que c'est un vrai besoin. Le français est un paysan de nature, je crois.
Magnifique. On va tout chouchin, les mêmes là-bas. Et ça se passe très très bien. Mais en tout cas, Nice, tout le monde est gentil. Alors. On rigole. L'autre fois, par exemple, on ne les connaissait pas bien. Il est monté à la maison.
Mais, du coup, il y a des liens qui se forgent au fil du temps avec... Bah, on est fidèle à notre producteur, vendeur. Voilà, on l'aime bien. Il nous indique les qualités de pommes qu'il faut pour faire telle ou telle recette. Les pommes de terre également. Il est utile en même temps. Vraiment.
Moi, des fois, je demande des recettes. Le temps de cuisson, les aromates, etc. Voilà. Après, on retourne chez les mêmes. Quand on a établi justement un lien ou une confiance, oui, aussi.
Ben voilà, le mot est dit, la confiance. C'est très important, la confiance entre les consommateurs et les producteurs. Même s'ils ne sont pas en bio, même s'ils ne sont pas labellisés, quand on sait qu'ils travaillent bien et que la relation de confiance est là pour rassurer, c'est intéressant et important d'aller les voir.
Oui, puis surtout, ils vont pouvoir vous expliquer ce qu'ils vous vendent. Chacun des produits qui est sur leurs étals, quand ce sont les producteurs, ben, évidemment, ils les connaissent. Donc, ils vont vous guider dans les saisons. Ils vont, s'ils sont honnêtes, et la plupart le sont, ben, vous dire, tiens, en ce moment, il y a plutôt ça, il y a plutôt ça.
C'est
et
ça.
On discute, on échange.
Et puis, j'ai bien aimé la phrase, moi, les Français sont tous des paysans. Mais c'est vrai, hein, encore aujourd'hui, à notre génération, si on remonte deux générations en arrière, on a tous des paysans dans notre famille, pratiquement.
Et les jeunes, ils reviennent.
Et oui,
en ce moment,
les néo-ruraux.
Les néo-ruraux.
Absolument, Charlotte Langrand. Mmh. Alors, sur les marchés, on trouve aussi de belles charcuteries. Ne bougez pas, dans un instant, on accueille trois belles saucisses de Franche-Comté. La Morteau, la Montbéliard et le Gros Jésus seront avec nous. A tout de suite
les
sur
Europe 1. Flingueurs.
C'est un peu ça. Mais on sera là et on va les cuisiner. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Vous sentez là cette belle odeur de fumée? Ah ouais, nous avons redécoré le studio Coluche en accrochant des saucisses de Montbéliard, de Morteau, sans oublier le Jésus mortuatien. On va vous expliquer ce que c'est dans un instant. Alors avant de s'en payer une belle tranche, on va revenir vraiment sur la valeur ajoutée de ces belles saucisses. Dans une potée, avec de belles pommes de terre ou dans une soupe, on manque pas d'idées. Mais c'est pas toujours facile de choisir entre la Montbéliard et la Morteau. Olivier Pouls, vous avez choisi votre camp. Hein.
Team Montbéliard, ouais. En ce qui me concerne.
Pourquoi ?
Ben, je l'aime beaucoup. C'est vrai que alors, c'est une saucisse qui est produite sur quatre départements. Les quatre départements de Franche-Comté, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, ouais. Et le territoire de Belfort. Elle a toujours un calibrage qui est le même, 2,5 à 4 cm.
C'est la petite, quoi. Ouais.
Exactement, elle est assez petite. Et surtout, à l'intérieur, on y trouve du porc, évidemment, mais pas n'importe quel porc. C'est du porc label rouge de Franche-Comté. Donc, ce n'est pas fait avec des porcs qui sont achetés
ouais, et qui viennent d'élevage intensif et tout ça d'ici et là. Comme ça, voilà, sans nommer des régions pour ne pas se faire d'ennemis, parce qu'on le dit assez souvent,
et
effectivement.
Et une petite touche d'épices, évidemment. Oui. Hein, le poivre, le carvi. Et puis, parfois, on peut trouver un petit peu de coriandre, de muscade, de girofle.
Oui, c'est la même farce que pour la Morteau, mais c'est la taille qui change. Et le fumage est le même. Hein. On fait ça dans un... Alors, on dit... ça s'écrit tuyer, mais on dit tuer là-bas, en Franche-Comté. Hein, Charlotte.
Tuer, c'est ça. Ce petit goût de fumée, là, c'est une pièce centrale et typique des fermes du Haut-Doubs qui s'apparente à vraiment une énorme cheminée en bois. Elle était avant utilisée comme garde-manger et maintenant, elle sert désormais uniquement à fumer les salaisons et à leur donner ce petit goût.
Moi, j'adore ce goût fumé. J'ai grandi dans l'Est, dans les Vosges. Ça fait vraiment partie de la tradition. Alors, on vous emmène justement, amis auditeurs, sous un tuet pour sentir au plus près le fumage des belles saucisses de Franche-Comté. Marion Sauveur est à Gilet, dans le Doubs, avec Pascal Nicolet du tuet du Papy Gabi, sous les chapelets de saucisses. Et la Morteau, la grosse, n'est pas loin.
Alors ici, vous êtes dans un tuet. C'est l'un des plus grands qui existe. Il fait 18 mètres de haut. C'est une cheminée en forme pyramidale. Et là, c'est un endroit où on fume et on sèche les salaisons. Donc on a toutes sortes de salaisons. Ça va des saucisses jusqu'au jambon. Les saucisses de Morteau, c'est la spécificité de la région. C'est une IGP, c'est protégé sur un terroir particulier ici en Franche-Comté. Déjà, ce qui fait sa particularité, c'est qu'à une extrémité, elle est fermée par une cheville en bois. Parce qu'ici, on est dans une région très boisée. C'est l'une des régions les plus boisées de France. Et aussi, c'était une question économique, parce que la ficelle coûtait plus cher que le bois.
Et on la pendait d'ailleurs par cette cheville en bois.
Oui, dans le temps. Et elle est embossée dans un boyau naturel de porc. Et déjà, elle est fumée minimum 24 heures en fumoir traditionnel, en tuée. Donc ça donne l'odeur, ça donne aussi la couleur à cette saucisse, une couleur un peu ambrée. Aussi le parfum au niveau du goût aussi, parce que la fumée va traverser le boyau, va donner aussi du goût à la viande qui est à l'intérieur. Et ça sent très très bon. Ouais.
Et ben bravo.
On confirme que c'est très
Merci
très bon.
Merci Pascal Nicolet, c'est très très bon. On en a cuit une juste avant l'émission. Vous validez Charlotte Langrand?
Je valide totalement, j'en reprends même plusieurs fois.
On a une farce qui se tient bien, vous avez vu, bien équilibrée.
C'est pas trop gras.
Pas trop de gras, hein. Il y a une belle réponse. Partition de
maigre et
de
bouche, hein.
Ah oui, il y a une belle longueur en bouche avec ce petit côté fumé.
Ça change tout.
Ça dans un petit salé ou avec des petites pommes de terre. Et si on veut même faire la Franche-Comté jusqu'au bout, on met de la cancoyotte sur les petites pommes de terre chaudes et puis la saucisse de Morteau à côté avec une belle salade d'endives. C'est bon ça.
Vous savez, trancher comme ça assez finement à l'apéro, avec une toute petite pointe de réfort par-dessus pour donner un petit coup de boost.
Vous avez ressorti le réfort, vous n'avez pas pu vous empêcher. Hein.
J'adore
partout
le réfort.
Partout, il en met partout.
Mais
moi aussi, j'adore ça. Je suis comme vous, pareil. Charlotte, dites-moi, alors on a parlé de la Montbéliard qui est la petite, la Morteau qui est la grosse, mais il y a encore plus gros.
Ah, mais moi, je suis de la team Jésus. La version XXL de la Morteau, s'il vous plaît. Plus de 6 cm de diamètre. Soyons clairs, hein, c'est à peu près le même goût que la Morteau. La différence est dans le volume. Ça peut parfois peser jusqu'à 1 kg. C'est assez rare. C'était uniquement servi à Noël et il ne faut pas le confondre avec le saucisson sec lyonnais qui porte le même nom biblique.
Rien à voir effectivement, mais dans un petit salé, pensez à la Morteau ou à la Montbéliard. Les métropolitains d'origine réunionnaise qui nous écoutent le savent, ils font main basse quand ils viennent en métropole sur la Montbéliard pour réaliser le fameux rougaille saucisse. Ils utilisent la saucisse de Montbéliard. Qu'est-ce qu'on boit d'ailleurs, Olivier Pouls, avec une Morteau ou une Montbéliard?
Suivant la manière dont on va la cuisiner, mais il faut des vins assez vifs quand même, parce qu'il y a de la puissance, donc soit un vin blanc. Pourquoi pas du Jura? Moi, j'aime beaucoup les vins blancs du Jura, sans aller sur quelque chose d'oxydatif type vin jaune, mais on peut avoir des vins secs qui vont justement contrer ce côté un peu gras.
Sur du Savagnin?
Voilà, du Savagnin, par exemple, un Savagnin non houillé, mais il y a des rouges assez tendres qui vont aussi très très bien fonctionner là-dessus.
Un rouge tendre, c'est bien ça. Et ben voilà, après les tués de Franche-Comté, Marion Sauveur revient dans un instant avec son journal de la cuisine. Et notre dossier sera consacré à nos déjeuners au travail. Comment manger aussi bien au bureau qu'à la maison? On va en parler avec Claude Fischler, sociologue de notre alimentation. Et on a plein de choses à mettre dans la gamelle, vous allez entendre. La réponse, juste après ça, tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Comment bien manger au travail? Comment manger équilibré au bureau sans se ruiner? Quelles sont nos bonnes et moins bonnes habitudes pour faire une pause le midi? Eh bien, on en parle dans un instant avec Claude Fischler, sociologue de l'alimentation. Et on va vous donner aussi des idées de recettes pour bien manger au travail, vous pensez bien. Mais en attendant, c'est l'heure d'accueillir Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
C'est important la pause déjeuner, Marion.
Ah, oui, c'est essentiel.
On est d'accord. Alors, les titres de votre journal de la cuisine. L'impact du coronavirus, les dons des agriculteurs et cuisiner pour l'aide alimentaire. Voilà le menu. Coup dur pour le secteur de la restauration depuis l'arrivée du coronavirus en France, Marion.
Oui, depuis 15 jours, les hôteliers restaurateurs constatent une baisse d'activité de 10 à 20%. Les régions parisiennes et Auvergne-Rhône-Alpes sont les plus concernées. Et puis un mois après l'apparition du virus en France, les ventes de produits non périssables ont bondi de 30% rien que la semaine dernière.
Dingue.
Vous l'avez peut-être remarqué dans les supermarchés, le riz, les pâtes, les conserves sont dévalisées. Mais les enseignes se veulent rassurantes, aucune pénurie n'est à craindre.
Ben évidemment. Challenge la solidarité réussi pour les agriculteurs, Marion.
Ils étaient invités pendant toute la durée du Salon international de l'agriculture par l'association Solal à donner des produits frais pour les associations d'aide alimentaire. Des œufs, des légumes, du lait, du fromage. Les paysans ont été généreux. Près de 3,5 tonnes ont été récoltées sur le salon et plus de 36 tonnes sur l'ensemble de la France pendant cette période. Merci à eux.
Un grand merci à nos amis paysans, absolument. Les futurs chefs aussi s'engagent contre la précarité alimentaire.
Lundi débute la 7e édition de la semaine des écoles hôtelières et pendant 2 semaines, les jeunes de 60 écoles vont préparer 2 recettes spécifiquement créées pour répondre aux besoins nutritifs des personnes dans la précarité. Des plats qui seront ensuite distribués par les jeunes eux-mêmes.
Marion, votre cerise sur le gâteau cette semaine, c'est une vente aux enchères de photographies culinaires.
Oui, une expo-vente organisée par Réflexe Engagé, une association qui regroupe des photographes culinaires, des stylistes culinaires et des chefs et qui sont tous sensibles à la question du gaspillage alimentaire. Donc c'est leur première exposition et leur but c'est de reverser les bénéfices de cette vente à l'association Les Frigos Solidaires.
Oui,
je vous en ai déjà parlé
connaît.
Ici. Hein. Ce sont des frigos qui sont installés en libre service un petit peu partout en France pour éviter le gaspillage alimentaire.
Quel type de photos alors on peut voir dans cette expo?
Des photos culinaires du coup, des légumes comme un gros chou violet.
Des natures mortes.
Voilà, des champignons comme une belle girole au naturel. Et il y a une photo magnifique d'une tomate, une ancienne variété de tomate prise en gros plan comme ça. Moi, je l'adore, celle-ci. Il y a des natures mortes comme un banana bread, un gâteau avec ses ingrédients ou des dressages d'assiettes.
Et comment on fait pour acheter les photos, alors?
Ça se passe sur Internet, sur le site donc Réflexe Engagé. On vous mettra le lien sur europe1.fr. La photo est donc à partir de 75 euros puisque c'est une vente aux enchères et vous ferez donc un beau geste.
Eh ben, merci à vous, Marion Sauveur, et à tout à l'heure. Alors, comment bien manger au boulot? Au bureau, sur son lieu de travail, c'est pas toujours simple de faire rimer pause déjeuner avec qualité et nourriture équilibrée. Montpellier. Avant nos recettes prêtes à manger, faisons le tour de nos gamelles avec Claude Fischler, sociologue de l'alimentation, ardent défenseur de la pause déjeuner. Bonjour Claude Fischler.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre travail, il est passionnant, c'est d'étudier comment nous mangeons en fait. Hein.
Comment, quoi, pourquoi, et ainsi de suite.
Au bureau, la gamelle, c'est une bonne alternative ?
Ah, la gamelle, j'en vois pas beaucoup au bureau. Je vois des Tupperware, je vois des gens qui descendent chez le boulanger du coin, qui bien entendu devient de plus en plus un pourvoyeur de fast-food ou de sandwich.
De salades toutes prêtes, oui.
Salades toutes prêtes, etc. Enfin, les salades toutes prêtes, elles sont dans les sandwichs maintenant.
Oui, c'est vrai. Oui.
Le sandwich a subi un processus de complexification depuis quelques décennies.
Il s'est pombanarisé.
Absolument. Ça devient de plus en plus délicat à consommer pour quelqu'un de la old school comme moi. Il s'en tombe toujours sur les pieds.
Ils sont de plus en plus épais.
Oui, oui,
c'est vrai. Il faut une grosse mâchoire.
Il y a salade, fromage, dessert. Non, il n'y a pas dessert.
Bientôt, peut-être. Dans les années 70, Claude Fischler, les Français passaient plus d'une heure 30 à table le midi. Vous vous rendez compte? Plus d'une heure 30 à table le midi. Ça a bien changé. On en est à combien, là?
Selon les instances qui font les enquêtes, et puis selon les quartiers surtout, et les villes. Par exemple, à Paris, en face de notre bureau, quand on est allé regarder dans la brasserie de l'Europe, c'était 22-25 minutes. Mais par contre, ce qui est très frappant, c'est que les Français gardent une conception du manger qui est absolument indistincte du repas. Manger, c'est faire un repas.
Oui.
Si vous n'avez pas fait un repas, c'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas assis à table à une certaine heure, à un certain endroit, avec certaines personnes de préférence. Vous n'avez pas mangé. Vous rentrez chez vous le soir, vous dites « j'ai pas mangé à midi ».
C'est vrai,
vous avez fait un sandwich, ça compte pas. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'à 13h, vous avez la moitié des Français qui sont en train de manger, 50% à peu près. Ça reste relativement stable depuis très longtemps. Alors qu'en Grande-Bretagne, le moment de la journée où il y a le plus de gens qui sont en train de manger, ça va être 17,5% des gens.
C'est ça.
Donc, il y a cette espèce de structuration du temps social par les repas et par la bouffe. Nous ne mangeons pas entre les repas, les Français. Nous sommes ceux qui
grignotent moins. On grignote moins, absolument.
Nous sommes aussi ceux qui prennent le moins de boissons sucrées.
Oui, les sodas au repas, voilà. C'est pas trop notre truc. Et que ça continue surtout, parce que c'est une catastrophe.
Je suis pas sûr que ça continue autant qu'avant, mais enfin, c'est comme manger dans le métro. Enfin, on en reparlera.
Il y a le burger aussi qui détrône un petit peu le sandwich, quoi.
J'arrive pas à le mettre dans la même catégorie que le sandwich, mais je suis probablement trop normé français. Moi, pour moi, le burger, c'est un sandwich pour les Américains.
Oui.
Mais un sandwich chaud, pour moi, c'est pas un sandwich.
Et c'est ça, c'est culturel, là.
Ah oui, fondamentalement social.
Et, on va en
parler. C'est ça qui compte.
Justement, et on va vous donner des idées de recettes pour bien manger, pour remplir nos gamelles avec du fait maison au bureau. On revient juste après avec Claude Fischler, sociologue de notre alimentation. Ce sera juste après ça. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Eh oui, engloutir un sandwich triangle, les yeux rivés sur son ordinateur ou son smartphone, voilà une mauvaise habitude qui prend le pas sur la vraie pause déjeuner. Voilà pourquoi nous consacrons notre dossier au savoir-vivre et au fait maison pour bien déjeuner au travail avec le sociologue Claude Fischler, sociologue de notre alimentation. Claude, on a fait un sondage sur le groupe Facebook des bons vivants.
Ouais.
60% de nos membres mangent avec leurs collègues dans un lieu dédié au repas. Ça peut être la cantine d'entreprise. 24% des jeunes seuls devant leurs écrans.
C'est beaucoup.
Pas mal quand même. Hein,
ouais, c'est beaucoup.
Et 8% seuls dans un lieu dédié au repas. Voilà, c'est un peu triste ça, seul dans un lieu dédié au repas. À mon avis, ils sont un peu sur le smartphone aussi.
Mais la question, ouais, c'est seul en public ou seul en privé, si vous voulez. C'est très très différent parce que quelquefois, on voit dans certains coins, dans des quartiers de bureaux, on voit des gens qui sont sur leur sandwich, assis sur des marches, mais à côté d'autres gens qui font la même chose. Ça m'a toujours frappé dans le quartier Saint-Lazare, par exemple.
Oui, mais dans les grandes villes, dans les cœurs des grandes villes, on voit ça un petit peu partout, effectivement. Il y a quand même un équilibre à respecter, même pour parler du sandwich. Hein, Charlotte Langrand, on pense tous à la pause sandwich. Il y a sandwich et sandwich. Si un bon sandwich équilibré, il y a quand même des choses à respecter.
Il y a quand même quelques crudités, quand même. Penser aux crudités.
Les fibres.
Oui, c'est ça. Il faut à la fois des crudités, des protéines, des œufs, du poisson ou de la viande. Le pâté et le saucisson, en gros, c'est bien, mais ça doit être occasionnel. Il faut mieux privilégier les viandes maigres, le roast beef, la volaille. C'est sûr que, par exemple, le crudité thon,
Oui.
Ou le crudité poulet. Vous avez des féculents dans le pain, des protéines dans le thon ou dans le poulet, des fibres dans les crudités et un peu de bon gras dans la mayonnaise parce qu'il faut quand même
un peu de mayo. Ouais, moi, je ne suis pas fan de la mayo parce que ça coule dans le sandwich. Il faut qu'elle soit bien faite. Il y a le wrap qui a le vent en poupe. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est avec une galette, vous savez, de maïs. J'en ai fait un l'autre jour. Galette de maïs que vous achetez partout dans le commerce, que vous pouvez réchauffer pour l'assouplir un petit peu. Vous prenez une boîte de maïs bio que vous allez mixer avec un petit peu de fromage frais. Vous tartinez votre galette avec ça et vous mettez du magret de canard séché par-dessus, un petit peu de verdure, un petit peu de mâche, si vous le souhaitez, ou du cresson quand c'est la saison. Vous repliez et ça vous fait un encas qui est effectivement nourrissant, parfumé et agréable au bureau. Olivier Poulx, c'est quoi votre truc de la pause déjeuner, du sandwich? Vous êtes jambon beurre, vous, non?
C'est vrai qu'un bon jambon beurre, ça reste un incontournable. On en trouve malheureusement de moins en moins de vraiment bons, parce que c'est tout bête à dire, mais pour faire un bon jambon beurre, il faut du bon pain, il faut du bon jambon et du bon beurre. Il faut les trois. Et c'est pas toujours facile à trouver.
Mais il y a un truc qui est en voie de disparition, si j'en juge par le fait que dans trois bistrots parisiens récemment, j'en ai pas trouvé, sur le zinc.
L'œuf dur.
Non. Oui, l'œuf dur a disparu.
Ah, très ça, j'aimais bien, moi, l'œuf dur.
Oui, moi aussi, vous avez raison. Non, le rillet de cornichon.
Ah oui.
On m'a refusé trois fois un rillet de cornichon.
Ça, c'est vrai que c'est bon, ça, je suis d'accord. Non, mais alors, je connais un petit bistrot, moi, dans le 8e.
Tiens, mais il faut le chercher.
Oui, il faut le chercher, absolument. Oui. Mais c'est vrai que pareil, une bonne rosette, un beau saucisson, quand il faut qu'il soit bien sourcé, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a la belle provenance pour manger quelque chose de bon, parce qu'on trouve du tout venant aussi, entre guillemets, sur le jambon, qui est un jambon industriel, dans 80% des cas, des jambons beurre, quand même.
Un bon beurre camembert, ça c'est délicieux aussi.
Ah déjà, camembert beurre, il faut être hardi pour demander ça aujourd'hui, parce que gras sur gras, on va vous dire.
J'assume, j'adore.
Mais j'assume aussi, c'est absolument fondamental.
Il y a le bento aussi qui a le vent en poupe, Charlotte
Landron. Oui,
ça c'est intéressant.
Le bento, qui vient du Japon, parce que là on est dans l'art de vivre à la japonaise, donc c'est très délicat, et puis il faut quand même cuisiner un petit peu en amont, parce que c'est cette boîte hermétique, avec plusieurs compartiments pour manger rapidement au bureau ou ailleurs.
Des produits à peine cuisinés.
Cuisiné. C'est comme au restaurant japonais, on mange plein de petits mets différents en petites quantités. Là, c'est pareil. On va mettre, par exemple, une base de riz, de la protéine animale, des petits légumes, qu'ils soient macérés ou frais, des fruits. Et la version la plus courante, par exemple, c'est on met du riz, du poisson grillé, puis une petite soupe miso. Mais bon, voilà, il faut quand même un petit peu cuisiner en amont.
Croquettes de poisson, frites de patates douces au four que vous faites à la maison. C'est vrai qu'il faut peut-être prendre cette habitude.
Il faut passer deux heures avant de...
Non, c'est pas deux heures.
Mais pas forcément.
Parce que quand vous faites votre dîner du soir, justement, moi, c'est ce que je fais souvent pour mon fils qui est dans une école où il y a un self qui est pas terrible. Eh bien, ce que je fais, c'est que je lui fais une gamelle la veille au soir.
Et dans
ce cas-là, vous la faites, cette gamelle.
Mais vous êtes un papa fantastique.
Non, mais je fais pas ça tout le temps. Mais vous la faites en même temps que vous faites le dîner. Et je vous assure que c'est un gain de temps aussi, et de pouvoir se dire, ne serait-ce qu'un riz par exemple rustique avec un bon poulet à la crème et aux champignons que vous mettez par-dessus le riz, et ça se réchauffe au micro-ondes. Le micro-ondes fait du bien, Claude Fischler, dans les entreprises, non?
Fondamental. Hein, on pouvait pas vivre sans.
Ça permet de réchauffer.
Et c'est une bonne solution à l'anti-gaspi aussi, parce que voilà, on recycle les restes de la veille, c'est parfait.
Ah mais c'est un vaste sujet. Hein. Je vous renvoie au livre super facile recette de Lunchbox paru chez Solar, où il y a plein de recettes pour faire des bentos, des pokéballs, des gratins, des muffins, des salades. Si vous voulez justement un petit peu vous y mettre, Claude Fischler, vous allez voir, il y a plein d'idées autres que le jambon beurre. Ça passe vite. Merci d'être venu, Claude Fischler, nous parler de la pause déjeuner au bureau. Je rappelle votre livre « L'omnivore » avec un H qui est toujours disponible. C'est un incontournable, vraiment, de la sociologie de l'alimentation depuis 30 ans et qui est toujours chez Odile Jacob. Merci infiniment, Claude Fischler, d'être venu. Et regardez, on fait un joli chaise musicale. Dans un instant, le chef Christian Constant sera notre invité. On va lui demander, tiens, ses trucs pour bien manger au bureau, un bon casse-croûte toulousain à la façon Christian Constant. Mais avant, on va faire un petit tour par la cuisine de Boris Vian. Ah, il s'en passe des trucs ce matin. Ce sera juste après ça. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau.
Ah, vous entendez, ce samedi, c'est la table des bons vivants. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. C'est vrai qu'on fête cette année le centenaire de la naissance de Boris Vian. Il est né le 10 mars 1920. Alors Boris Vian, ancien ingénieur, parolier, musicien, auteur de romans, L'écume des jours, J'irai cracher sur vos tombes, L'arrache-cœur. C'est vrai qu'il a permis un grand nombre, je trouve, d'entre nous d'attraper le plaisir de lire, notamment L'écume des jours, Olivier Poulx, qui est devenu un classique, en tout cas pour notre notre génération.
Qui est devenu, mais qui a mis du temps à s'installer, parce qu'au moment de sa sortie, c'est assez mal vendu. Quelques centaines, un petit millier d'exemplaires. Alors depuis, il a trouvé sa vitesse de croisière. C'est ce qu'on appelle un best-seller maintenant, puisque je crois qu'il s'en vend à peu près 100 000 exemplaires chaque année.
Joli.
C'est pas mal.
Joli. Alors c'est vrai qu'on connaît Boris Vian Jasmann, mais il était cachotier. Il faisait plein de choses.
Oui.
Il avait plein d'amour, Charlotte.
Il n'était pas que chansonnier, il était aussi amateur de bons petits plats, il avait un bon coup de fourchette et surtout, il collectionnait les ustensiles de cuisine.
Exactement. Alors écoutez, on a un document qui est vraiment très très sympathique, c'est pour vous. C'est vrai qu'on ne savait pas que Boris Vian était amateur de bonne chair, c'était un épicurieux, comme on dit. Et Julien Amat a poussé la porte de la cuisine de Boris Vian et d'Ursula Kubler. Le couple habitait Cité Véron dans le 18e arrondissement de Paris. Nicole Berthold, qui est la gardienne des lieux aujourd'hui, est mandataire de l'œuvre de Boris Vian. Elle a travaillé pendant 40 ans avec sa dernière femme Ursula. Elle y habite toujours aujourd'hui et pour les bons vivants, elle a ouvert les portes de cet appartement mythique. Allons-y.
Depuis le temps que je suis ici, que je fréquente cette maison, c'est-à-dire il y a plus de 40 années en fait, ma pièce préférée c'est la cuisine. Alors Boris Vian, il avait quand même une chose assez étonnante, c'est que quand même sa lecture favorite à une période, c'était quand même le catalogue de Manu France. Mais c'était aussi d'aller au BHV pendant des heures pour voir tout ce qu'il pouvait y avoir comme ustensiles de cuisine. Dans ce petit réduit, il y a encore quelques objets, et certains, je vais vous dire, on ne s'en sert plus du tout, et puis certains même, parfois, je ne sais même plus à quoi ça sert. Là, ça, c'est une chose assez intrigante, et je pense que c'était pour couper une pomme. Voilà. À Ursula, elle s'en servait de temps en temps, elle disait que c'était très chic. Elle était très snob, comme Boris. Et alors, il coupait des fruits comme ça. Comme cette espèce d'instrument dans lequel on mettait de la viande déjà cuite. C'est les restes, en fait, pour faire du hachis parmentier. Et en fait, on pousse là, et ça permet d'ailleurs, ça vient, vous voyez, d'Allemagne. Ursula était suisse alémanique. Ah, vous avez un instrument, ok. Il tourne bien, et je vous le chante.
Une tourniquette
pour faire la vinaigrette.
C'est génial, ça. C'est l'heure. Pour bouffer les odeurs.
C'est joli.
Non mais surtout, c'est génial ce petit truc effectivement tourné. Et puis il y avait le fouet qui tournait avec cet engrenage.
Pratique. Boris Vian, alors amis auditeurs, si vous avez envie, comme Julien Amat, de visiter cet appartement, eh bien vous pouvez le faire. On vous mettra les références et les coordonnées sur europe1.fr. Boris Vian qui avait le livre de cuisine de Jules Gouffet à côté de lui quand il écrivait L'écume des jours. Et c'est d'ailleurs de là qu'il a repris la recette du pâté d'anguille composée par le cuisinier de Colin dans le roman L'écume des jours. Ouais. Il était fan de blanquettes de veau aussi. Et il y a même une blanquette de veau qui porte le nom de Boris Vian à la carte des deux magots aujourd'hui.
Oui, et on peut toujours la manger. Et c'est un plat qui a beaucoup évolué dans l'histoire. C'est un plat qui est né au XVIIIe siècle, qui était au départ une manière d'accommoder les restes de viande. Et ensuite, on a commencé à le cuire dans le bouillon. La crème est arrivée. Le riz, évidemment, la façon de lier avec le roux. Mais ça reste un plat évidemment emblématique que Boris Vian adorait, et nous aussi d'ailleurs.
Eh bien, vive Boris Vian, je vais faire mon Nicolas Caro, relisez Boris Vian, comme il dirait.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
C'est l'heure de retrouver un autre épicurieux, c'est le compère de la fourchette Jean-Luc Petit-Renaud. Alors vous le savez, fidèle à sa réputation, Jean-Luc nous attend à table, au restaurant. Aujourd'hui, il est au Beaurepaire, une adresse basque dans le 5e arrondissement. Une belle façon de manger, écoutez, un morceau de province en plein Paris. N'est-ce pas l'ami Jean-Luc ? Bien le bonjour, camarade.
J'espère que vous allez bien. Vous savez qu'on a souvent justement comparé le Parisien et le provincial. Ce pauvre Parisien, qu'est-ce qu'il a pu supporter quand on disait « Parigot, tête de veau !» Et quand on voyait garer sa caravane au milieu d'un champ de blé mûr, on disait « Mais ils connaissent rien, ces Parisiens !» Eh bien, je me posais la question l'autre jour, les enfants, à savoir si finalement, avec le temps, on ne trouvait pas les plus beaux produits de province dans la capitale. Regardez, dans ce restaurant, le Beaurepaire, eh ben on va trouver des choses que l'on ne trouve pas ailleurs, notamment le jambon de porc de Quintoa, jambon basque. Quand vous le goûtez, vous avez l'impression d'être au pied des châtaigniers et des chênes, là où il s'est nourri. La canne à rôtir de Criachera. Moi, ça me donne déjà faim. parce qu'elle est rare. C'est une pépite. On est content quand on arrive à repartir avec une canne sous le bras. C'est comme si on avait découvert une truffe, tellement c'est bon, raffiné, recherché. Le veau vient de Hasparren et ils font ici un véritable hachois, ce fameux ragoût de viande.
Ah oui.
De veau qui d'habitude est haché et pisse l'eau,
oui.
Alors que là il est découpé au couteau. Et il est beau ce veau, il a fière allure, il a le béret sur la tête, il est prêt à chanter la 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 Pays basque est ici au pied de Notre-Dame.
Ben oui, c'est joli. C'est vrai qu'il y a du vrai dans tout ça. Merci Jean-Luc Petit-Renaud encore une fois pour ce joli talent de conteur. Et on embrasse, enfin de loin parce qu'on n'a plus le droit de s'embrasser, mais tous nos amis auditeurs au Pays basque. Une belle hachoie de veau, ça fait du bien. Continuons, tiens, avec les gens qui se tiennent bien à table. Notre invité fait partie de nos plus grands chefs. Hein, vous êtes d'accord, Olivier Pouls ?
Absolument.
Ah oui.
Charlotte Langrand, vous validez ? Et il a formé de nombreux cuisiniers.
Une légende.
Christian Constant arrive dans un instant. Il n'est pas venu les mains vides. Jamais il vient les mains vides. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Merci d'écouter la table des bons vivants, chers amis. Alors après la tourniquette de Boris Vian et le coup de fourchette de Jean-Luc Petit-Renaud, c'est l'heure de déplier la serviette de notre invité. De Montauban où il est né, il a gardé l'accent pour faire monter le sud-ouest à la capitale. Cuisinier chez Le Doyen et Auritz, il devient chef au Crillon. Cette année formidable où il devient le père nourricier d'une belle équipe de jeunes devenus grands aujourd'hui. On en cite quelques-uns, Yves Candebord, Emmanuel Renaud, Éric Fréchon pour ne citer qu'eux. Pour Top Chef, c'est le chef Constant. Pour ses poulains, c'est Monsieur Constant. Christian Constant est notre invité. Bonjour Christian.
Bonjour Laurent.
Ravi de vous avoir à notre table. Vous êtes, comme on dit, un chef qui compte dans le milieu et dans le monde de la cuisine et avec une réputation égale. Tout le monde aime Christian Constant.
Non, c'est pas vrai, c'est pas possible.
Ah ben ouais, écoutez, on a fait le sondage. Hein.
Parce que vous ne pouvez pas le dire vous-même.
Ah non, non.
Mais nous, on peut vous le dire.
Bon, ça fait plaisir d'abord d'être ici à Europe 1 et puis d'entendre des beaux compliments pour démarrer.
Ambassadeur du Sud-Ouest à Paris, Christian, vous êtes rue Saint-Dominique aujourd'hui dans le 7e. Alors, il y a le Vieux Londingue, les Cocottes, le Bibent à Toulouse. Combien de restaurants vous avez aujourd'hui ? Parce qu'on ne sait plus, il y en a qui ne sont plus à vous.
Il y a le Café Constant aussi.
Ouais, il y a le Café Constant qui...
Ça, c'est vous.
Voilà, maintenant je garde le Café Constant rue Saint-Dominique. J'ai vendu le Vieux Londingue, j'ai vendu les Cocottes. Je m'occupe du Sofitel Art de Triomphe où je suis conseil. J'ai le Bibent à Toulouse et j'ai lâché à Montèche le bistrot Constant à Christophe Marc, et c'est lui qui fait la cuisine maintenant, et c'est lui le propriétaire.
Ouais, belle fidélité. D'où vous vient le goût de la cuisine, Christian Constant ?
Ah ben, le goût de la cuisine, tout jeune, je joue au rugby. J'avais un copain qui avait un restaurant qui s'appelait Patrick Albert, qui avait le Chapon Fer Montauban, et je passais plus de temps dans les cuisines qu'à l'école ou au devoir. Il me faisait goûter des plats, j'avais 6-7 ans. Souvent, on dit la cuisine, ça sentait le graillon. Et oui. Moi, j'aimais cette odeur. Et donc, le goût m'est venu un petit peu de là. Ma mère aussi, on était 5 enfants de famille, on était 7 à table, donc il fallait faire de la cuisine. Et elle m'a donné un petit peu ce goût parce qu'il y avait des plats qui mijotaient. Quand on rentrait à la maison, ça sentait bon, la cuisine. Elle faisait du riz au lait, elle savait que j'aimais ça, moi. Tout gamin, je montais sur la chaise, j'avais 5-6 ans à l'époque, je me souviens encore cette odeur. Et vous savez, quand on fait un riz au lait, il y a le lait qui colle un petit peu à
oui,
la casserole.
La peau.
Voilà, la peau, et je grattais avec le doigt, je raclais ça, et ça me donnait envie. Et puis, elle faisait des œufs mimosa, des daubes, des poulets. Il y avait toujours à manger, elle récupérait les restes, c'était magnifique.
Quel est votre goût de la semaine, Christian Constant ?
Alors, le goût de la semaine, c'était il y a 2-3 jours, j'ai été chez l'ami Jean. Il m'a fait des suprêmes de caille.
Stéphane Gégaud.
Stéphane Gégaud, oui. De folie. Il a des sarments de vigne dans une cocotte avec un peu d'origan. Il a allumé ça, il a poêlé ses cailles à l'huile d'olive, il les a posées sur ce sarment de vigne avec l'origan, il a fermé dans la cocotte. C'était fabuleux, l'odeur, le goût. Tout le monde se demandait, il avait fait ça pour moi, et tout le monde se demandait d'où venait cette odeur. Et moi, ça me rappelait un petit peu les vignes, la campagne.
Le sud-ouest.
Et le sud-ouest. Et c'est facile à faire, quoi. Même à la maison, on peut arriver à faire ça, quoi.
On va lui réclamer, à mon avis. En plus, si vous en parlez ce midi, aujourd'hui, Stéphane Gégaud, il va devoir refaire cette recette. Alors, Christian Constant, demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. L'occasion pour vous, Charlotte Langrand, de revenir sur la place des femmes dans les cuisines de restaurants. Un milieu longtemps macho, quand même, hein. Christian, faut
oui,
avouer.
C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on ne voyait pas beaucoup de femmes en cuisine. Et maintenant, ça a évolué, on en voit de plus en plus.
Oui, j'en ai vu chez vous, voilà. Oui, absolument.
Et la cuisine, ça part de chez la femme. Ma mère faisait la cuisine, elle m'a donné envie. Et dans les cuisines, on voit les filles qui ont une petite touche de plus que peut-être que les hommes. Et puis, il y a le partage maintenant. Elles savent, elles donnent envie. Et elles s'y connaissent. Les goûts sont parfaits. Elles aiment la pâtisserie. Je crois que c'est parfait.
Alors, on va en parler justement, Charlotte, parce que le monde est encore un peu macho. Mais bon, faites un état des lieux. On va parler des changements.
Ah, écoutez, oui, moi, dans mon métier, effectivement, il n'y a pas un chef qui, pourtant, ne parle pas de la cuisine de sa grand-mère ou de sa mère. Mais pourtant, le milieu de la gastronomie, hélas, il est toujours parmi les plus sexistes qui soient. Hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Les femmes y sont sous-payées par rapport aux hommes. En général, c'est 24% en moyenne, hein, de moins. Bénéficient de beaucoup moins de reconnaissance dans les guides gastronomiques. Hein. Elles représentent, par exemple, moins de 5% des étoilées du guide Michelin. Et pire, elles sont souvent victimes de harcèlement. En témoigne le compte Instagram hein, qui s'appelle Jeudi Non Chef, qui compile des histoires mais vraiment atterrantes sur leur quotidien en cuisine. Donc, il y a de quoi décourager les femmes.
Ça va décourager un petit peu les femmes de choisir ce métier, mais qu'on se rassure quand même. Il y a des femmes, on en connaît, Christian Constant, qui sont des vrais exemples. Je pense à Reine et Nadia Samut, Manon Fleury, Amélie Darvas, Blanche Loiseau, fille de Bernard Loiseau, qui prend la relève.
Bien sûr, Guylaine Arabian, Hélène Darroze.
Mais pas seulement, il y a aussi des chefs qui ont finalement dû inventer de nouveaux styles culinaires pour tracer leur chemin en dehors de ces cuisines traditionnelles. Il y a les femmes des premiers food trucks, Christine Frédérics par exemple, avec le camion qui fume, ou celles qui cuisinent de façon nomade dans des restaurants éphémères comme Chloé Charles ou Céline Femme.
Mais moi, ce que je remarque aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de filles qui tiennent des restaurants quand même.
Bien sûr, elles les tiennent, mais c'est vrai qu'elles sont moins distinguées que les hommes. Alors du coup, elles tracent leur chemin de façon un petit peu différente. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses qui font bouger les lignes.
Oui, sur les réseaux sociaux.
Plein d'initiatives.
Oui.
Avant les réseaux sociaux, il y a même une association qui s'appelle Paraberet, qui a constitué une base de données de 6000 noms de chefs dans 62 pays, donc elles sont là. On peut la retrouver dans leur application smartphone, le Paraberet Gourmet City Guide. Et des initiatives pleines de sororité, donc vous avez par exemple Cut Poule, qui raconte le quotidien des femmes dans les métiers de bouche. Vous avez Women Do Wine, qui met en lumière le travail des femmes dans le monde du vin. Les Affamées, qui créent du partage entre les femmes de la food, comme on dit, etc. Et puis enfin, prenez date, hein, l'année prochaine, la 7e édition justement du Paraberet Forum se tiendra chez nous à Paris et sous le haut patronage du chef de l'État.
Donc ça avance, ça progresse. Merci Charlotte Langrand et on vous retrouve évidemment dans le journal du dimanche. Ne repliez pas la serviette, hein, on revient juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite avec Christian Constant sur Europe 1.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pousse d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez à la table des bons vivants, de la gamelle pour bien manger au travail, à la cuisine de Boris Vian, en passant par les cocottes de Christian Constant. Ça mijote depuis 11h hein, à la table. On va goûter, Christian Constant, votre plat convivial que vous avez gentiment apporté dans un instant. C'est quoi ?
C'est des pommes de terre farcies au pied de porc.
De Dieu, que ça va être bon ça, que ça va être bon. On va parler transmission avant. Je le disais, hein, vous avez formé de nombreux cuisiniers. Le guide Michelin vous a récompensé, Christian Constant, il y a 2 ans, en vous donnant le titre de mentor européen. Ce prix de la formation et de la transmission, ça vaut 3 étoiles pour vous, non ?
Ah oui, tout à fait. Je suis fier d'avoir eu des gens comme Manuel Renaud, Jean-François Piège, Yves Candebord. Je ne vais pas tous les citer. Et je compare souvent le rugby à la cuisine ou la cuisine au rugby. C'est parce qu'il faut un chef, il faut un leader, il faut une équipe, il faut une passion, il faut un entraînement. Et tout ça, en cuisine, on l'a aussi. Et ces garçons-là l'avaient. Et puis, bon, c'était quand même des cuisiniers qui avaient du caractère, qui avaient une envie, qui avaient la passion. Quand vous avez tout ça réuni, vous êtes obligé de réussir.
Alors, on parlait d'Yves Candebord, qui fait partie de la bande des bons vivants, hein, qui fait partie de notre équipe. Et justement, il a une question à vous poser.
Monsieur Constant, bonjour. Il y a une recette que je n'arrive pas à refaire. Vous avez un secret, je veux le savoir. Comment faites-vous pour rester jeune, dynamique, joyeux et positif ? J'attends la réponse. Et à la vôtre.
À la vôtre, Yves Candebord.
Alors. Disons que je m'entretiens, je fais attention à ce que je mange. Je mange dans de bons restaurants, je mange des bons produits. je fais ma cuisine et je mange surtout ma cuisine et celle de des copains comme Cardebord, de Fréchon, je vais chez eux. Donc, m'entretenir, c'est-à-dire qu'il faut... Il y a deux choses, il faut savoir cuisiner, mais il faut savoir lâcher un petit peu. Je fais du sport. J'essaye de faire au moins une heure de vélo par jour. Je me lève le matin de bonne heure, je me couche tard, mais je m'impose ça.
Manger et bouger.
Manger, bouger, et puis bien vivre, faire peut-être des troisième mi-temps, mais pas trop longtemps.
C'est ça, mais votre recette, c'est aussi le goût des autres, Christian Constant. Voilà. Vous avez un sens de la camaraderie et de l'amitié qui est très important chez vous.
On le retrouve dans le rugby, et effectivement, on le retrouve avec ces gars-là. Et plus vous êtes content, plus vous êtes heureux, plus vous passez de bons moments avec eux, c'est ça qui vous fait rester jeune. Et puis, le travail aussi, il ne faut pas lâcher.
Hein. Et ben, la preuve, vous avez bien travaillé pour nous parce que, amis auditeurs, on vous décrit ce que nous avons sous les yeux et sous le micro actuellement. Une pomme de terre farcie réalisée par Christian Constant, elle est magnifique. Et à côté, il nous a fait une belle surprise, les premières asperges vertes, Christian Constant.
Il y a les vertes et les blanches. Il y a les blanches qui viennent des
Landes
à côté.
Oui,
il y a des blanches. Et la verte qui vient du Vaucluse. Et
c'est quoi la petite sauce?
Voilà, j'ai mis... genre de mimosa, il y a échalote, un peu de cerfeuil, ciboulette, persil,
c'est bon.
Et une bonne vinaigrette avec un peu d'huile d'olive.
L'acidité et la douceur de l'œuf en même temps. Hein.
Voilà, ça fait du bien avec l'asperge, l'œuf, c'est un mariage fabuleux.
Et puis la simplicité en plus.
Voilà, à un moment donné, quand vous avez essayé de faire beaucoup de choses, il faut rester simple et avoir de bons produits, c'est ça.
Et aller à l'essentiel, comme vous dites souvent.
Souvent, oui.
C'est quoi votre recette de pommes de terre farcie? Elle est à tomber là.
Alors la pomme de terre farcie, c'est simple. C'est-à-dire qu'on prend des pommes de terre, de la binge, on les épluche, là nous on les tourne en cuisine, mais on peut les éplucher, les creuser, et on les fait confire à la graisse d'oie.
Ah.
Voilà, elles sont confites 20 minutes dans la graisse d'oie, on les retire, et après on prépare une farce avec du pied de porc. Le pied de porc, il est déjà cuit, nous on le fait cuire, mais vous pouvez acheter du pied de porc cuit,
un peu
de chair à saucisse, capre, cornichon, ciboulette, cerfeuil, moutarde, et après on remet ça dans la pomme de terre, et on laisse cuire 20 minutes. Moi, je mets un peu de jus de veau, mais à la maison, on peut mettre tout simplement de l'huile d'arachide et vous les cuisez. Et puis le jus va se faire lui-même.
C'est un bonbon, votre pomme de terre farcie, Christian Constant. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, tiens, Olivier Pouls?
Mais écoutez, on a là un vin dont on va parler dans un instant dans la chronique. Et ça tombe assez bien parce que sans le faire exprès, le mariage est remarquable. On a un vin du sud-ouest, on a un Malbec. Vinifié de manière assez élégante, c'est pas rustique, et je trouve que l'accord se joue
particulièrement
bien.
Ça marche bien, je viens de prendre une gorgée, ça marche très bien. Amis auditeurs, ne bougez pas, hein. On revient dans un instant avec la pomme de terre farcie de Christian Constant, et puis vos questions au 3921. Ce sera juste après ça. Bon samedi midi sur Europe 1, et merci d'être là, vous êtes nombreux, ça nous fait plaisir.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Oh, c'est bon. Hein. Nous voilà de retour en très bonne compagnie avec le chef Christian Constant, généreux dans sa cuisine comme dans la vie. Hein. Il nous a fait le plaisir, vous l'entendez, de venir avec des pommes de terre farcies et un bouquet d'asperges mimosa. Christian, on parlait tout à l'heure de la pause déjeuner au bureau. Cette pomme de terre farcie là, que vous avez faite avec de la farce de cochon et du pied de cochon, c'est quelque chose qu'on peut emmener au bureau.
Ah ben,
un petit coup de micro-ondes, ça marche, ça.
Bien sûr, facilement. Plus, même réchauffé, ça sera encore
meilleur. On parle souvent ici de la bistronomie avec Yves Condebord, hein, qui en est l'ambassadeur. C'est cette façon de travailler avec des produits rustiques et populaires à la sauce gastronomique. Mais Christian Constant, la tête de veau, la queue de bœuf, les andouillettes au menu d'un 2 étoiles, c'est vous qui avez été le premier à initier le mouvement avec cette cuisine bourgeoise contemporaine, on va dire.
Oui, exactement. Hein, j'ai pris des risques à un moment donné parce que à l'Hôtel des Crayons, j'avais envie de faire cette cuisine un petit peu bourgeoise, traditionnelle, même dans un lieu comme le...
Mais canaille en même temps.
Mais canaille, exactement. Et c'était un lieu où il y avait des miroirs...
Des dorures.
Des dorures, Sonia Riquel, marbre, des rideaux. Et il disait que ça n'allait pas aller avec ce style. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, je veux faire la cuisine que je sais faire, que j'aime.
C'est
et
ça.
On va tenter. Et ça a marché. On faisait une tête de veau avec des pommes de terre au safran. On avait pris des risques. Mais j'étais avec des jeunes. Je me sentais bien.
Et ils ont tous la banane hein, quand ils parlent de cette période. C'était effectivement physique, dur et exigeant.
Mais
il y avait un esprit d'équipe qui transpire dans votre cuisine, tout simplement, Christian Constant. On va répondre aux questions que vous posez, amis auditeurs, à propos d'une recette ou d'un produit. Eh bien, voici une au 3921.
Bonjour Laurent, je m'appelle Jean et en fait j'adore la chantilly, mais la plupart du temps je l'achète en tube au supermarché. Et en fait j'adorerais savoir faire une bonne chantilly maison et rapidement surtout parce que j'ai pas trop le temps.
Oh bah c'est pas compliqué Christian Constant,
non,
la chantilly.
Non, pas du tout, pas du tout.
Une crème liquide entière déjà,
hein, exact,
bien
exact,
froide.
Bien froide.
Le cul de poule bien froid.
Bien
le,
froid, hein, si c'est un saladier. Moi je le mets au frigo,
oui, carrément.
Carrément. Voilà.
Et on y va avec le fouet.
Et après, le fouet, faut avoir...
De l'huile de coude.
De l'huile de coude, bien aérer la crème. Quoi,
oui, il faut un fouet avec des gros fils,
voilà,
pas des petits fouets.
Bien soulevé, fouetté. Lever un petit peu le fouet, le cul de poule, ouais, ou le saladier. Et bien monter. Et à la fin, vous mettrez le sucre.
Exactement.
À la fin, hein, tout simplement à la fin.
Pour la serrer, comme on dit.
Voilà,
et quand
pour la finir.
Quand on retire le fouet, il y a ce qu'on appelle le bec, c'est-à-dire, voilà, que justement la chantilly adhère bien.
Tiens, au... mais c'est vrai qu'il faut donner un... faut que tous les éléments soient très frais. Hein.
Oui, oui, très
aussi
très froid.
Bien, aussi bien la crème
et,
que le saladier.
Et pas
quoi,
de crème liquide allégée, ça ne marcherait pas, Jean. Surtout non. Une crème liquide entière. Hein. Voilà. Pas de
faut
blague.
Prendre un peu de patience. Et puis, pas la fouetter trop fort. Il faut y aller régulièrement.
On peut le faire au robot, hein,
voilà,
sinon.
Oui,
avec
oui.
Voilà, le saladier du haut. Voilà, ça marche aussi. Hein. Oui, on peut faire une bonne chantilly à la maison. Allez, une autre question au 39-21.
Bonjour, Rebecca de Montvalon. J'ai une question pour la table des bons vivants. J'aimerais savoir si la couleur de la coquille des œufs a une influence sur leur goût. Merci, bonne émission.
Bonne question. Bah, je dirais non, moi.
Non,
hein, Christian
non,
Constant.
Non, pas du tout. Quand on va dans les Landes ou dans le Sud-Ouest, la coquille, elle est un peu plus, peut-être, marquée, quoi. Et le jaune, il est très, très, très jaune.
Et pas orange, hein.
Et voilà, et ouais, pas orange. Et puis, quand on vient peut-être un petit peu dans l'Île-de-France, la couleur n'est pas... Mais ça n'a aucune importance.
C'est lié à la génétique des volailles, en fait. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pratiquement que des œufs blancs.
Comme vous le dites, dans le Sud-Ouest, quand ça gambade et que c'est en liberté,
et, voilà, c'est
et que ça mange un peu de tout, voilà.
La coquille ne sera pas la même.
Elle ne sera pas la même, la coquille. Voilà, ça, ce serait presque le mot de la fin de cette séquence, en tout cas. On continue de faire ripaille avec le chef Christian Constant. Pour qu'un repas soit réussi, les amis, bah, il ne faudrait pas oublier la qualité des flacons. Ça tombe bien, Olivier Pouls s'y colle juste après ça. Et pendant ce temps-là, on y retourne sur les pommes de terre farcies de Christian Constant.
Ah bah oui, bien.
Oh là là, avec du cochon, du pied de cochon et de belles asperges et une sauce mimosa. On vous mettra tout ça, hein, sur europe1.fr. Bon appétit si vous êtes à table, les amis. On revient.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large. Ça, c'est du peintre Paul Gauguin. Et ben, c'est une phrase qui va comme un gant à notre invité, le chef Christian Constant, qui est avec nous jusqu'à midi et demi. Christian, on vous connaît derrière les fourneaux. On va mieux vous découvrir dans l'assiette, dans un instant, avec le questionnaire des bons vivants. Vous avez 4 restaurants, hein, aujourd'hui. Vous avez le Café Constant, maintenant,
oui,
vous avez vendu le Vivandin.
Qui va ouvrir lundi 9, parce qu'on était en travaux. Hein,
d'accord, donc ça rouvre lundi 9, le Café Constant, dans le 7e.
Et est-ce qu'il y aura du cassoulet?
Oui, monsieur.
Ah,
oui, monsieur.
Le meilleur cassoulet du monde.
De Toulouse.
Champion du monde. Champion du monde de Toulouse. Effectivement, il sera à la carte. Il sera à l'affiche.
Tiens, le cassoulet toulousain, on va en dire un petit mot, justement. Saucisse de Toulouse à l'intérieur.
Non, cassoulet toulousain, il y a de la saucisse, du confit, du saucisson à l'ail, de la poitrine. Et après, bon, moi, je le fais à ma manière. Je fais revenir rapidement des oignons, de l'ail, fleur de thym, un peu de couane. Je cuis mes haricots à part, bien sûr, avec le saucisson, le bouquet garni, haricots tarbés. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma petite coque, je fais une petite concassée de tomates, je mets un peu de sauce de Navarin là-dedans, je fais compoter et je mets mes haricots. Et là, je les recompote encore une bonne demi-heure. Et ensuite, je les mets dans mon plat à cassoulet. Je mets mon confit, ma saucisse, ma poitrine, mon saucisson. Je remets des haricots, un tout petit peu de mie de pain de chapelure.
Ouais.
À Castelnaudary, à Carcassonne, ils en mettent
pas. Oui, c'est pas officiel là-bas.
Non,
oui.
Non. Il y a bagarre.
Il y a bagarre.
Et
oui.
Ensuite, un peu légèrement de graisse d'oie et je cuis ça au four.
Oh, oh
et
là
et
là.
C'est très, très bon.
Il
a été
bien.
Champion du monde.
Il en
pour l'avoir
bien.
Mangé, je peux vous dire qu'il faut venir des quatre coins de France rien que pour
mais exactement.
Votre cassoulet toulousain à Paris.
Amis auditeurs, quand vous venez à Paris, vous allez faire un petit tour du côté de la Tour Eiffel, effectivement, et pas loin, il y a le Café Constant. Rapport qualité-prix en plus agréable chez vous, Christian Constant, à 20 €, on a une formule qui permet de déjeuner quand même. Hein, c'est important
exactement.
De le dire.
Entrée plat ou plat dessert, on est à 20, je veux pas dire
21
bêtise.
Euros.
Voilà,
21 euros, ouais. Christian Constant. Alors, quand on parle de Christian Constant, il y a un autre nom de notre gastronomie qui est indissociable de celui de Christian Constant. C'est le nom d'un camarade qu'on aime beaucoup ici, qu'on retrouve tous les samedis sur les coups de midi moins le quart, c'est Jean-Luc Petit-Renaud. Et il a quelque chose à vous dire, Jean-Luc Petit-Renaud.
Alors, cher Christian, tu es peut-être champion du monde du cassoulet, mais tu n'es pas champion du monde des cuisses de grenouille. Tu te souviens, Christian, j'étais dans une émission en direct pour la télévision et l'invité était Demis Roussos. Et puis, je t'avais dit, pourrais-tu me faire des cuisses de grenouille parce que je sais, après enquête, qu'il adore les cuisses de grenouille. Tu me dis, il n'y a pas de problème. Quand c'est noté, c'est noté. Allez, vas-y, raconte la suite, je vais me marrer.
C'est quoi la suite?
La suite, c'est-à-dire que Jean-Luc faisait une émission, il me demande cette recette, et moi j'étais débordé, j'oublie. Et le téléphone sonne, on était en train de manger, Jean-Luc, mes cuisses, elles arrivent. Tout de suite, je raccroche le téléphone, je dis à Yves, vas-y, on poêle un peu de grenouille, fraîchon, il fait des œufs brouillés, on met ça dans des coques d'œufs, et lui, il part en scooter à fond, hop, il arrive à l'émission. Mais les cuisses de grenouille n'étaient pas cuites. Et donc, quand d'abord, Yves amène le plat, lui se bat, et Jean-Luc, il voit que Demis Roussos, il est en train de manger. Mais il n'arrivait pas à mâcher, parce qu'il n'était pas. Il a avalé ça, il n'a rien dit, il a été magnifique.
Ah, il était bon.
Je reconnais, c'est la faute de ma vie. Quoi.
On le saura, Demis Roussos, c'était un fan du tartare de grenouille. Donc, oui. Voilà, Olivier Pouls, vous allez nous parler d'une tendance qui prend de l'ampleur depuis quelques années. Tendance, c'est agréable et accessible, hein, je dois dire. C'est le succès des vins de cépage. Vous allez donner votre avis là-dessus, tiens, Christian Constant. D'abord, on va rappeler à nos auditeurs ce qu'est un vin de cépage, Olivier Pouls.
Cépage au singulier, hein, donc c'est un vin qui est issu d'une seule et unique variété de vignes. Alors, ça peut être du chardonnay, du pinot noir,
du
cabernet, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est une tendance marketing un petit peu et qui est mondiale. On veut aujourd'hui, en tout cas une certaine catégorie de consommateurs veulent retrouver des noms ou des goûts qu'ils connaissent. Et donc le vin de cépage commence à arriver, mais on ne l'a pas inventé. Hein.
Mais on met le cépage en avant par rapport à l'appellation dans ce cas-là.
Voilà, exactement, parce que le Bourgogne, c'est du vin de cépage, c'est du Pinot Noir. Mais à part qu'on ne met pas Pinot Noir sur la bouteille, on met Gevrey-Chambertin, Chambol-Musigny, on ne met pas le cépage en avant. Et le fait de mettre le cépage en avant, c'est quelque chose qui nous vient du Nouveau Monde, et notamment des pays comme l'Australie, comme les pays d'Amérique du Sud ou des États-Unis, dans lesquels la notion de terroir n'est pas aussi marquée que celle que nous avons la chance d'avoir en France. Et donc, eux défendent des goûts et on dit « je veux du chardonnay, et je ne veux pas forcément du Bourgogne ».
On en pense quoi alors?
Mais on en pense que c'est une manière intéressante d'amener les gens au vin, parce que c'est vrai que voilà, y a une typicité du Viognier, il y a une typicité éventuellement du chardonnay, encore qu'on peut en discuter, il y a une typicité de plein de choses, mais c'est nier notre histoire et nos appellations finalement. Mais ça permet aux gens d'accéder au vin et je l'espère ensuite d'aller vers les choses plus compliquées. Vous voyez, là, je vous ai apporté un vin qui est un vin de cépage, qui est du Malbec, et qui vient de chez vous, du sud-ouest, qui est vinifié de manière très intelligente. C'est un Malbec qui est sur la fraîcheur et non pas avec le côté rustique comme on a pu avoir de temps en temps du côté de Cahors. Et le Malbec qui s'est imposé à cause des Argentins. Les Argentins sont des gros producteurs de Malbec. Et aujourd'hui, en produisant des Malbecs et en revendiquant le Malbec en France, on est capable d'aller sur certains marchés. Donc cette cuvée qui s'appelle Liaison Dangereuse est un fort joli Malbec de belle gourmandise.
Vous en pensez quoi, Christian?
C'est très bon. Je trouve que c'est pas... normalement, c'est puissant, ça arrache.
Oui.
Et là, ça se boit très très bien, facilement. C'est pas, comment dirais-je, âpre.
C'est pas trop, oui, c'est pas, voilà, c'est pas non, trop costaud.
C'est pas trop costaud.
On sent que ça tabasse
pas. Et avec
pas.
La pomme de terre farcie, ça se marie très bien.
Très bien.
Même avec un cassoulet, je pense que ça serait
une
bien.
Une notion de cépage qui permet de casser les codes aussi et de s'affranchir parfois des carcans des appellations.
Eh bien, merci beaucoup Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les jours dans l'équipée sauvage du camarade Mathieu Noël de 16h à 18h. Oh là là, vous entendez Christian Constant? Ça frétille. C'est le grill du questionnaire des bons vivants, vous allez y passer. Et on va commencer par cette question, tiens. Quel est le goût de votre enfance?
Alors le goût de mon enfance, c'était quand j'étais gamin, mon grand-père me faisait goûter. Il avait une tonnelle où il y avait des grappes de raisin. Il me faisait goûter sur un quignon de pain. Il frottait légèrement avec une gousse d'ail, un peu d'huile. Et il me faisait goûter les grains de raisin. Et je vous promets que le mariage de tous ces éléments, c'était magnifique. Il était avec son opinel, là, il me coupait une tranche, le quignon, légèrement frotté, un peu d'huile,
et
la grappe de raisin. C'est un goût d'enfance. Et ça, je garderai toute ma vie, quoi.
Le premier plat que vous avez cuisiné, Christian Constant?
Alors, le premier plat que j'ai cuisiné, c'était un apprentissage. C'était un soufflet. un soufflé au Grand Barnier. Ah, mais c'était pas évident. Hein. Je me souviens de la recette. C'était un décidé de lait, 20 grammes de fécule, on le faisait à la fécule, 2 jaunes d'œufs, 4 blancs d'œufs.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Alors là, ça c'est un marathon. C'était le mariage avec mon épouse Catherine. On avait commencé au violon d'Ingres, entre amis, entre familles. Après, on a été au crayon. Ensuite, on a fait avec Potel et Chabot au pavillon d'Armenonville. Et ensuite, on a fini chez Yves Candebord.
Belle table.
Ah oui, chez Yves Candebord, toute la famille. Je voulais que ça marque. Et c'était l'arrivée du Tour de France. On était là, on a passé un bon moment. C'était magnifique.
Votre pire repas, Christian Constant?
Alors, le pire repas, c'était à l'armée. À l'armée, j'ai mangé, et nous avait fait une macédoine de légumes. Je pense qu'elle avait passé 2 jours dehors. Elle était immangeable et j'ai été me plaindre. J'ai dit à l'adjudant, j'ai dit vraiment votre macédoine, c'est pas bon. Eh bien, il m'a dit, puisque c'est ça, vous passerez en cuisine. Et depuis, je suis resté en cuisine, c'était à Fontainebleau. Et après, grâce à ça, je suis allé aux messes des officiers.
Ah, génial. Quel plan emmèneriez-vous sur une île déserte, Christian Constant?
Alors, je ne suis pas pêcheur, mais j'amènerais une boîte de sardines. Ça, j'adore les sardines, il y en a toujours dans mon frigo parce que des fois je rentre tard, je prends un peu de pain. Il faut, alors comme disait monsieur Pouls, il faut un bon beurre, du bon pain et la sardine.
Et
il
une
faut,
bonne sardine.
Voilà, une bonne
bien,
sardine.
Il y en a des belles en
voilà,
boîte.
Voilà.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Yann Kefelec, Jean-Luc Petit-Renaud, Pierre Arditi, Fabien Galthié et le professeur Kayat. Comme ça, je pense que j'ai tout réuni. Et puis, si on est malade, on a quand même le professeur.
C'est ça, il y a un médecin, il y a un sportif, on peut aller voilà. Bouger un peu
et,
après.
Et on passe de bons moments. On l'a déjà fait. Hein.
Oui, mais je vois ça. Le mot de la fin, FAIM, Christian Constant.
Alors, pour moi, c'est que le bonheur soit entre la fourchette et le couteau.
Oh, c'est joli ça. Merci, on vous applaudit. Bravo, Christian merci. Constant. Merci infiniment.
En tout cas, lui, il l'était.
Il l'était. Et puis dites donc, ces pommes de terre farcies, on vous les mettra évidemment sur le site europe1.fr avec la recette. Pommes de terre farcies à la façon de Christian Constant qu'on peut retrouver dans son café Constant ou au Bibent
oui,
à Toulouse. Bien entendu, merci d'être venu infiniment.
Merci à vous.
Christian, merci à toute l'équipe de la rédaction et à la réalisation Jean-Luc Arblad, Agnès Vaudin à la programmation. Rendez-vous la semaine prochaine avec Patrick Poivre d'Arvor qui sera notre invité et qui a un bon coup de fourchette, vous entendrez. Les recettes et les références vous attendent sur europe1.fr. Merci Charlotte Langrand.
Merci Laurent.
À demain dans le journal du dimanche. Merci Olivier Pouls.
Eh bien, bon week-end
les anniversaires
amis.
Tout
ben, je
à l'heure.
Hein. Ça, je voilà. vais fêter ça, je vous invite.
Merci Marion Sauveur. C'est le week-end les amis. Bon week-end. Faites le marché, la cuisine et le reste aussi, oui. Bien entendu. Bon week-end Justine.
Bon week-end Laurent. À la semaine prochaine. Et en attendant, votre programme continue sur Europe 1 avec dans quelques minutes l'arrivée de Fabienne Lemoyle avec votre journal de la mi-journée. Et à 15h, ce sera « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Aujourd'hui, Isabelle Morizet reçoit l'acteur Jean-Hugues Anglade. Alors bonne journée avec Europe 1. Il est midi 27.